TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission TimeFoot, votre quotidien spécial Coupe d'Afrique des Nations. Toute la rédaction de Beurre FM s'est réunie donc pour vous faire plaisir afin de vous concocter chaque soir des émissions de talent et proximité pour vous, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM. Et durant ce mois du football africain, on vous donnera la tendance et toutes les dernières infos de cet événement assez festif sur le continent africain et même ailleurs. Et ce soir, durant une heure, comme d'habitude, Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire réagir sur l'antenne de Beurre FM en composant le numéro du standard. On le rappelle, ce fameux numéro, le 01 53 48 3000. Au menu de cette émission, en ce lundi soir, le Cameroun. Et oui, les Lions, justement, qui réussissent leur première dans cette entrée de cette fameuse CAN. Nous accueillerons pour la première fois sur cette antenne Emmanuel Korkostegui, journaliste chez nos confrères de l'équipe et réalisateur du magnifique récit sur Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs. On s'attardera aussi sur le Sénégal. Et oui, les Lions de la Teranga et sans oublier les Lions de l'Atlas. Il n'y a que des Lions ce soir avec moi pour m'accompagner sur ce magnifique plateau. C'est pas la Champions League, mais pourquoi pas Champions League versus africaine, c'est promis. Allez, c'est parti avec le JT Sport de Jason. Go go TimeFoot, on y va.
Time Sport.
Info du lundi par des nouvelles de Novak Djokovic, bien évidemment, d'abord retenu puis libéré ensuite en Australie après s'être présenté sans vaccination la semaine dernière sur le territoire. Le Serbe, longtemps menacé d'annulation de visa, aurait bel et bien recommencé à s'entraîner ce lundi et espère toujours participer à l'Open d'Australie qui débute d'ici quelques jours. En football, transfert, Samuel Umtiti a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Annoncé constamment sur le départ, le Français s'est finalement entendu avec son club pour diviser son salaire et permettre au passage l'enregistrement de la nouvelle recrue Ferran Torres auprès de la Ligue espagnole. Toujours en foot, fin de saison pour Federico Chiesa, victime des ligaments croisés du genou gauche hier soir lors de la rencontre entre l'AS Rome et la Juventus en Serie A. Voilà, c'est tout pour ce soir en vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nenman dans cette édition spéciale Coupe d'Afrique des Nations.
Un grand merci à notre rédacteur Jason et pour m'accompagner ce soir, on aura Achille. Comment ça va Achille ?
Ça va, bonne année à tous.
Bonne année, c'est vrai Achille. C'est
meilleur vœu, j'espère que
c'est la première fois qu'on est avec
bien
toi.
Bien pour vous.
Depuis le début
plaisir d'être en votre compagnie ce soir.
Ah ben nous aussi, on verra, il a des petites infos croustillantes comme à chaque fois Achille. Justement, Mourad est de la partie. Comment ça va Mourad ?
Ça va très bien Bilal, bonsoir à toutes et à tous.
Mourad aussi est en vacances aujourd'hui. Ouais, c'est la rentrée aussi de Mourad. Voilà,
comme on débute avec la CAN donc
ouais, du 18e.
Bonne année à tous.
Aussi, une petite pensée à Vivien. Samir est là. Comment ça va, Samir ?
Bah écoutez, super. Bonne année tout le monde.
La santé, Samir, surtout.
La santé avant tout. Et très content d'être autour de ce plateau, mais avec vraiment un invité magnifique. On va en parler en deuxième partie d'émission. Et surtout, on va parler de la CAN. Et j'espère qu'on va être plus spectaculaire que ce qu'on a vu sur le terrain pour le moment.
Eh ben, on va voir. Juan Trossé est là avec nous aussi. Comment ça va, Juan ?
Très bien. Buenas tardes à tous. Et là, je vais vous le dire.
Ouais.
C'est quand même un scoop. L'Espagne ne va pas gagner la CAN.
Aïe, aïe, aïe. Tous. Eh oui, Juan.
On en a parlé juste avant l'émission.
Mais l'Espagne ne gagnera pas la CAN
cette année.
Oui, justement, on va s'attarder.
En fait, je veux dire à travers ce message que s'il l'a joué, bah, il l'a gagné.
Pourquoi
il
pas
il la gagnerait, justement.
Donc, ça serait assez intéressant.
Ouais, c'est un petit message minimal, mais bon.
La CAN 2022, allez, on y va du côté du Cameroun.
TimeSport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Le Cameroun qui réussit son entrée justement dans la compétition. Et oui, en fameux, dans ce match d'ouverture, les Lions indomptables ont dominé 2-1 à Achille. Ça le fait tout de même, d'une certaine manière. Ils sont là présents. Bon,
le travail était fait. Le travail était fait. Il fallait pas s'attendre à plus en ce qui concerne qualité de jeu ou autre. Il y a eu une grosse pression, une magnifique cérémonie d'ouverture. Franchement, 10 sur 10 sur tout le contexte et tout ce qui allait avec. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, un arbitrage digne de ce nom, qui a été vraiment très juste, à mon humble avis, ce qui fait que, au final.
Sauf sur la sollicitation de la VAR. Je pense qu'il a mis un peu de temps, mais bon, c'est peut-être pas de son ressort.
Après, c'est peut-être pas forcément son ressort. Je pense qu'il a eu, le temps, les retransmissions audio, le temps qu'elles se fassent. Néanmoins, oui, le Cameroun s'est imposé, j'ai envie de dire. Logiquement, même si c'est vrai que ça a été un peu poussif, mais au final la hiérarchie a été respectée et par la suite on verra bien pour la suite de la compétition quoi.
Ouais. Voilà, Juan Trossé, c'est camerounais. Ouais.
Ben moi je pense alors, que c'est, concernant la cérémonie d'ouverture, je pense que c'est important aussi de souligner, c'était très
bien
réussi.
Sûr.
Il y avait je crois la star congolaise, c'est ouais. Ça à défaut d'être présent est qualifié pour la compétition. Ils avaient Fali, c'est Ipupa, c'est ça,
qui
nous a fourni une prestation incroyable. Donc ouais, la cérémonie d'ouverture est réussie. Je voudrais aussi saluer le Cameroun pour l'organisation de cette CAN qui a été aussi perturbée de par la crise sanitaire, et je vais pas entrer dans des circonstances politiques, mais par d'autres aussi paramètres. Donc voilà, et je voudrais aussi passer un petit message.
Alors Mourad,
puisqu'on parle d'organisation et d'entrée en compétition, aux journalistes algériens qui sont faits.
Alors les journalistes algériens.
Il y a trois journalistes algériens qui sont organisés. Ben en fait, à la sortie de leur hôtel, ils sont fait agresser par par tout simplement des voyous. Donc voilà, j'ai juste envoyé un message de soutien. Ça aurait pu être d'autres journalistes d'autres pays. Là, c'est en l'occurrence, c'est des journalistes algériens. Donc, je voulais leur manifester à travers notre émission tout notre soutien, et en espérant que cette compétition, à l'image du Cameroun, qui est un des plus grands pays de football, en tout cas à l'échelle continentale, puisse justement nous donner encore des moments de beaux moments durant cette Coupe d'Afrique.
Ah oui.
Concernant le match, c'est un vrai match de Coupe d'Afrique avec du physique, parfois trop, avec une belle ambiance dans les tribunes, avec un terrain un peu limite, un bon arbitrage, à souligner aussi.
Je pense au tacle de la 40e seconde.
Et le tacle de la 40e seconde, effectivement, on était tout de suite dans l'ambiance de la CAN, mais voilà, il y a eu des tops. Moi, j'ai bien aimé Vincent Aboubakar. Je vais laisser Juan José un peu évoquer ce match. S'il a pu éventuellement l'analyser ou le regarder, un minima, mais très beau match de CAN, comme on les aime, avec de l'intensité, etc.
Début de cette CAN. Juan José, avec toi et Samir.
Alors, le mot utilisé par Achille, laborieux. Ouais. Ça a été laborieux, mais c'est normal.
Il a les mots justes, Achille.
D'abord, parce que c'est le premier match, et tu l'as souligné, énorme pression sur le Cameroun. Parce qu'il y a une histoire derrière, parce qu'il y a une histoire récente, justement, pour la célébration de cette CAN, qui a été en péril à un moment donné. Et ça a été laborieux, de façon générale. D'autant plus qu'ils se sont retrouvés menés au score, par le Burkina. Donc, effectivement, ça a été quand même compliqué pour les Lions, sachant que, effectivement, un premier match d'une compétition comme celle-ci, ou n'importe quelle autre compétition, est toujours compliqué pour l'équipe qui organise. Cela dit, j'attends voir mieux cette équipe du Cameroun. On va parler d'autres matchs, d'autres sélections qui ont joué aussi, notamment aujourd'hui, et qui, pour certaines, nous sont quand même assez déçus. Mais c'est une CAN qui commence de façon laborieuse, comme le Cameroun au début.
Alors Cameroun-Burkina Faso depuis dimanche 9 janvier, on le rappelle, l'Éthiopie de Cap-Vert. On va entendre Samir ce Cameroun. Samir.
Je rejoins assez ce que j'ai entendu. Après Achille, faut pas avoir peur des mots. Pour moi, la logique, elle a vraiment été respectée. Moi, j'ai trouvé, tu sais, on fait souvent des pronostics avant la CAN. À ton avis, qui va être la surprise de la CAN, etc. Le Burkina Faso, le nom du Burkina est souvent revenu.
Ouais.
Alors, pas de moi, mais je le voyais souvent revenir.
Je trouve
que le Burkina Faso a été immature. Parce que tu ouvres le score et après perdre le match sur des grossières fautes, et tu l'as si bien dit. Moi, l'arbitrage algérien, c'est un arbitrage algérien, du coup.
Ouais.
L'arbitre principal, pour moi, a fait une très belle partie. Mmh. Et pour revenir à ce que tu as dit, Mourad, il est gêné, en fait, en direct sur l'action. Tu sais que t'as le VAR ou la VAR. Et tu sais qu'en fait, il va revenir dessus. Donc, je trouve que sur l'ensemble du match, avec la pression qu'il y a sur le pays organisateur, je trouve que sportivement, finalement, ils ont répondu présent. Alors, le premier match. Là, on a vu, on va parler tout à l'heure de Sénégal-Zimbabwe. On va reparler de Maroc-Ghana.
Ouais, aussi les Marocains. Matchs,
pour l'instant, c'est pas fou, là. Ben, je pense qu'on va plus s'amuser ce soir que ce qu'on a vu depuis.
Alors, ça va très bien. Aussi, on va avoir de belles surprises. Moi, je pense à la CAN comme le Cap-Vert.
Tu le disais déjà.
Je pense que cette équipe-là est très sous-estimée. Et emmené par Julio Tavares en attaque. Et je pense que cette équipe-là, qui est une équipe qui, si je ne dis pas de bêtises, en est peut-être à sa première participation à la CAN, première ou deuxième, en fait, joue totalement décomplexé. C'est-à-dire que, contrairement à des équipes comme le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc ou même d'autres sélections africaines, en fait, ils n'ont rien à perdre. Du coup, ça va être des matchs extrêmement pièges. Et je pense que, comme tu l'as bien souligné, le Burkina, c'est une bonne équipe, mais elle a manqué de maturité. Et par contre, la fraîcheur de ce type d'équipe, de ces petits poussets, entre guillemets, type Cap-Vert, je pense que ça va faire beaucoup de bien, et attention.
Moi, je suis un peu déçu par la prestation.
Alors, Mourad, pourquoi?
Pour rejoindre ce qui se dit sur ce plateau concernant le Burkina Faso, je suis un peu déçu de par justement le parcours du Burkina Faso en phase de qualification pour les barrages de la Coupe du Monde. Ils avaient montré un très beau visage face à l'Algérie. En aller-retour, même si l'aller s'était joué au Maroc et au retour à Blida, j'avais aimé leur agressivité et justement le fait qu'il n'y avait pas la VAR appliquée. Peut-être qu'ils étaient un peu conditionnés par le fait qu'il n'y ait pas de VAR durant cette Coupe d'Afrique, donc c'était un peu sur leur lancée de cette agressivité. Mais bon, ils ont été rattrapés par la VAR. Après, il y avait des absents côté burkinabé. Le solide défenseur Topsoba du Bayer Leverkusen, il avait été très très bon, que ce soit à l'aller ou au retour face à l'Algérie. Donc vous avez fait un parcours honorable et ça nous permet aussi de découvrir d'autres joueurs, notamment Sangaré qui joue à Quevilly-Rouen, même s'ils sont dans le ventre mou, je l'avais trouvé excellent à Blida avec sa patte gauche. Donc voilà, après, moi je les voyais peut-être plus haut qu'ils ne l'étaient, peut-être le costume est un peu trop grand pour eux durant cette Coupe d'Afrique, mais je suis un peu déçu par cette sélection burkinabaise. Et après, concernant le Cameroun, même si c'est le premier match et le match de la peur, le plus important c'est les trois points, c'est un peu bateau comme expression, tout le monde l'utilise, mais c'est sur le plan comptable qu'on doit réussir au-delà du contenu. Mais j'ai été déçu, il n'y a pas de leader technique, j'ai été déçu par Zambo Aguissa qui pour moi doit franchir un palier et doit être le leader technique de cette sélection. J'ai été déçu par Onana aussi, même s'il s'est un peu rattrapé au fil du match, où il sort, il fait une petite boulette sur l'ouverture du score burkinabé. Donc voilà, après il y a deux pénaltys. Pour moi, le deuxième pénalty est quand même un peu litigieux. Après, moi, ce que je retiens, voilà, c'était une fête. On voyait le président camerounais, je sais pas, avec son épouse dans les tribunes. Il y avait un stade, il y avait des jeunes jauges de 80%. Il y avait une belle ambiance. Contrairement au match, tu l'as évoqué tout à l'heure, du Sénégal ou du Maroc, où c'était clairsemé, les tribunes étaient vides. Donc, je sais même pas vers quoi on s'engage, en fait, dans la suite de cette CAN. J'arrive même pas à dégager de favoris. Mais en tout cas, je peux écarter le Burkina Faso, qui pour moi n'est plus un outsider.
Non, mais il faut bien.
Alors,
non, mais
il faut pas les favoris.
Non, mais il faut bien.
Alors, le Cameroun est un favori naturel, mais sur le terrain.
Attention alors, à ne pas se laisser, emporter par des potentielles qualifications éliminatoires en amont. Qui a pu se passer précédant cette CAN là, parce que là ça n'a rien à voir.
Bah, quand il y a c'est deux mois que... d'écart entre le premier match et la CAN,
ça n'a rien à voir.
On s'est obligé d'avoir des éléments de comparaison.
On sait tous qu'aujourd'hui la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une CAN. C'est-à-dire que la CAN, en règle générale, il y a beaucoup de révélations de joueurs qui se révèlent.
Tu dois t'appuyer sur certaines vérités d'antan pour avoir des certitudes aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, c'est la logique.
J'entends bien, néanmoins, la CAN te montrera qu'en règle générale, quand tu as des équipes qui ne sont pas des équipes confirmées, qui ont déjà remporté des compétitions à plusieurs reprises ou qui ont
La Zambie a gagné la CAN.
J'entends bien. Mais
l'Algérie n'avait pas gagné la CAN depuis 90, l'a remporté en 2019.
J'entends bien. Néanmoins, l'Algérie a quand même participé à la Coupe du Monde 2014. Est-ce que c'était le cas de la Zambie?
Entre 2014 et 2019,
il y avait quand même un minimum
d'expérience.
Voilà, mais il y a quand même un minimum d'expérience. C'est ce qui fait. Et c'est ce qui va faire, à mon humble avis, à un moment donné, la différence.
Moi, je pense qu'on fait aussi une erreur avec les grosses nations africaines. On est beaucoup resté sur l'image du grand Cameroun, de la grosse Côte d'Ivoire. Grand Ghana. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter que tu parlais de leader technique, Morad. Je pense qu'il faut accepter que ça y est, il n'y a plus de leader technique.
Il y a plus
de Ghana. Ça y est, c'est fini. Ouais. En gros, maintenant, il y a eu une passation de pouvoir. Alors, les grosses nations africaines, c'est peut-être plus du tout ces pays-là. C'est peut-être l'Algérie, peut-être le Sénégal, c'est peut-être d'autres sélections. Ouais, et aujourd'hui, il faut l'accepter. Et il ne faut peut-être pas attendre du Cameroun aujourd'hui ce qu'on a vu du Cameroun il y a une dizaine d'années. Je pense. C'est peut-être que. Mentalement, on a encore l'espoir de voir un beau Cameroun comme à la belle époque avec Mboma, avec Eto, etc.
Purée, je comptais sur Toko Ekambi, moi. Plus. Tu m'as. Je tombe de très haut, là.
Bien, Achille. Malheureusement.
Malheureusement. C'est intéressant ce que disait Achille. Hein. Malheureusement, mais c'est vrai.
Toko Ekambi, on a eu un
pensant
à Boubacar.
Intéressant. Le Cameroun reste quand même une sélection importante parce que justement, il a une histoire. Est-ce que tu viens de dire. Je pourrais te donner la raison, mais je ne te la donne pas. Parce que quand tu transposes ça à l'Europe, l'Allemagne sera toujours l'Allemagne, la France sera toujours la France,
la différence,
et l'Italie sera toujours l'Italie.
La différence, c'est que la France et l'Allemagne ont toujours reproduit, reformé
le Cameroun. Donc le Cameroun est quand même une sélection qui a une histoire et qui défend cette histoire. Elle joue à la maison. Mais ça a été compliqué, tout le monde s'attendait à que ça soit compliqué lors du premier match. On va voir jeudi prochain face à l'Éthiopie comment ça se passe. Est-ce que la peur de ce premier match, une fois passé, va leur donner de la confiance? Je pense qu'à la fin, le Cameroun va jouer son rôle des grandes nations du football africain. C'est vrai qu'il y a des et de bas, et ces dernières années ça n'a pas été des hauts pour le Cameroun, mais ils jouent chez eux et ça c'est toujours important.
Mais quand on voit un Cameroun, moi ça me fait mal au cœur, quand on voit un Cameroun évoluer avec une défense à 3 et 2 latéraux qui hier ont fait un bon match d'ailleurs, qui jouent dans des clubs totalement anodins,
alors
dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il y en a un qui joue à Seattle, il me semble, qui a fait un très bon match. Vincent Aboubakar, qui est le leader, qui est le fer de lance de cette sélection du Cameroun.
Il vient d'être rappelé. Hein. Ouais. Il n'était pas forcément présent. C'était plutôt Choupo-Moting qui était sur le banc.
Oui, Choupo-Moting. Non, mais sur le match d'hier, il a prouvé que c'était le fer de lance de cette sélection, en marquant un doublé, il laisse tirer les pénalties, etc. Et il a fait un très bon match d'ailleurs. C'est un des top joueurs pour moi hier.
Ouais.
Donc ouais, ça reste un peu limité. Quand on s'appelle le Cameroun, on s'attend à des maillots débardeurs sponsorisés par Puma, le corps sportif,
des
corps dessinés, des Jérémy, de l'intensité, de la maîtrise technique, à la fois de la technique et de la puissance.
Et c'était pas ce qu'on a vu hier.
Bah moi je suis désolé, j'arrive pas à être d'accord avec ce que je viens d'entendre juste avant.
Alors,
je reviens sur la comparaison de l'Allemagne, de la France, etc. Tu peux comparable. L'Allemagne, la France, etc. ont formé et reformé toutes les décennies. T'as eu des grosses générations. Je suis désolé, c'est plus le cas de la Côte d'Ivoire, c'est plus le cas du Cameroun, c'est plus le cas du Ghana. Ils ne font plus du tout peur. Certes, tu peux t'appuyer sur l'histoire, mais c'est plus des nations aujourd'hui. Bah, genre, tu rencontres le Cameroun, le Ghana, bah, tu te dis, bah, il n'y a plus Samuel Eto'o, il n'y a plus Drogba, il n'y a plus Yaya Touré. C'est plus les mêmes équipes. Donc, tu peux pas comparer ça. C'est impossible.
Oui,
c'est... Par contre, aujourd'hui, l'Algérie, le Sénégal, ça fait peut-être le Maroc, on peut rajouter ça.
On va en venir.
Un peu plus peur. Je vais finir l'argument juste sur une chose, en essayant évidemment d'être objectif. Si aujourd'hui, je vais être content de me dire, bah tiens, l'attaquant du Cameroun, c'est Aboubakar qui a mis un doublé, qui a mis deux pénalties, qui joue je ne sais où aujourd'hui. Bah désolé, je préférais Samuel Eto'o, mais voilà.
On a une réaction d'Abdel qui nous dit la CAN, comme ça a été dit par l'équipe. Faut regarder l'efficacité, même s'il y a des progrès dans le jeu chez certaines nations. Après, ce n'est que le premier match. Voilà. Faut laisser aussi le temps et c'est toujours assez particulier. Vous restez avec nous.
On réfléchit au fur et à mesure de l'émission. Ouais. Les leaders techniques, et c'est vrai que. Doivent disparaître.
On ne peut pas enchaîner sur un autre débat. Je dois ouvrir sur la page de publicité. On va revenir avec Imanol, justement, Corcostegui, qui est avec nous, qui est arrivé. Et justement, on va enchaîner sur les Fennec. Allez, pour le plus grand plaisir de vous, les amoureux du football africain, voire mondial, vous restez avec nous, le 01 53 48 3000.
Time Foot revient dans un instant.
Reviens dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause, toujours en compagnie de Mourad, d'Achille, Samir et Juan Trossé Dorado. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Foot. Voilà, spécial Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Allez, on va s'attarder avec notre invité de ce soir, monsieur Imanol Corcostegui. C'est parti.
Time Sport. The Special One.
Journaliste chez nos confrères de l'équipe et aussi, c'est lui qui a mis en place, réalisé ce magnifique récit sur le sélectionneur algérien qui n'est autre que Djamel Belmadi. Bonsoir Imanol, comment allez-vous ?
Bonsoir à tous, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous, justement, implication totale et collective, c'est ce qu'on pouvait lire en tout cas sur les pages de chez nos confrères de l'équipe.fr, agressivité permanente, abondance de joueurs, technique, grande force offensive, telle que nous le donne à chaque fois, de jour en jour, Samir, et oui, qui connaissait si bien aussi cette sélection africaine, tout comme aussi Mourad, par le talent de Mahrez, entre autres, ou Belaïli. Mais c'est vrai, comment définir son identité tactique, qui sont aussi les joueurs phares d'un certain Djamel Belmadi, l'homme aussi. Qu'est Djamel Belmadi ? On vous écoute, on veut tout savoir ce soir, sur l'antenne de Beurre FM. Imanol.
Bah, l'idée de ce travail, c'était effectivement de s'intéresser à Belmadi, parce que c'est un joueur qui est connu du grand public, de nos lecteurs. C'est un joueur de Ligue 1, qui a été formé au PSG, qui est passé par Marseille, qui a joué à Valenciennes aussi. Et puis, on s'est intéressé à ce qu'il a réussi à la tête de l'Algérie, en se disant que c'était quand même je rappelle d'où venait l'Algérie quand Belmadi les a pris en main. Il venait d'épuiser 6 sélectionneurs en 4 ans. Ils avaient perdu au premier tour de la CAN 2017, ils n'étaient pas qualifiés pour le mondial d'après. Donc quand Belmadi récupère l'équipe, il y a du boulot. Et quand il dit à sa première conf de presse que l'ambition c'est de la gagner et qu'il va dire aux joueurs qu'il va gagner la CAN suivante, bon, il n'y a pas grand monde qui y croit. Et donc Boukier Belmadi, c'est le... Comme le dit, je pense, Islam Slimani, que j'ai rencontré pour ce travail-là, il dit c'est la personne idéale au moment... idéal, enfin voilà, c'était l'homme qu'il leur fallait à ce moment-là, parce que Belmadi, c'est quelqu'un qui a tous les codes, voilà, qui est né en France, qui a grandi en France, donc qui est assez jeune, il a que 45 ans,
ouais.
c'est voilà, il a
nouveau entraîneur,
Ouais, il a un bilan d'entraîneur qui est assez méconnu du grand public parce qu'il a commencé au Qatar et il a entraîné pendant 8 ans au Qatar. Ouais. Mais il a le plus gros palmarès de l'histoire du Qatar. Donc, en fait, il a vraiment marqué les esprits là-bas. Et puis, il a tous les codes, quoi. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement l'Algérie parce que c'est profondément un Algérien.
Ouais.
Il a été joueur en équipe nationale dans des années qui étaient.
Je pensais qu'il était breton, moi.
Je sais pas.
C'est un Campinois. Ouais, voilà, Champigny, mais il est aussi profondément algérien. Parce qu'il a joué pendant 4 ans en sélection dans des années qui étaient compliquées, quoi.
Parce qu'il y a des binationaux, je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel, qui sont franco-algériens, mais qui ne sont pas forcément rattachés à l'Algérie, à leur pays.
Mon travail, c'est un très long récit en plusieurs chapitres qui raconte toutes les étapes de sa vie. Et je dis qu'il est profondément algérien parce qu'effectivement, notamment le choix d'aller en sélection d'Algérie quand il est joueur, il y va très jeune. Enfin, sa première sélection, c'est en 2000. Mais déjà avant, il choisit de répondre à l'appel de la sélection alors qu'il aurait pu aller en équipe de France à prime. Enfin, il y a un vrai choix qui est un choix d'amour du maillot, d'amour de son pays, de fierté par rapport à sa famille, qui est un choix fort, quoi. Et pendant 4 ans en tant que joueur, il connaît quand même beaucoup de galères. C'est pas le foot algérien d'aujourd'hui, c'est un foot qui est pas professionnalisé, parfois on paye ses billets d'avion, parfois on a, enfin voilà, c'est lui a prouvé à maintes reprises son amour pour ce pays, pour ce maillot, et quelque part que 20 ans après ses débuts internationaux, il arrive à bâtir ce qu'il a bâti avec la sélection, c'est assez remarquable. Donc, qui est Belmadi, c'est quelqu'un qui est un professionnel absolu. Enfin, tous les gens qui l'ont croisé le disent, c'est un mec qui était un joueur qui donnait tout à l'entraînement, qui donnait tout en match, qui est une espèce de perfectionniste, parfois colérique quand son exigence n'est pas appliquée par tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a les codes de cette génération. Il est jeune, comme
il s'y connaît. Il sait s'y prendre.
Ouais,
on a l'impression.
Si on regarde l'effectif de la sélection algérienne, en gros, il y a beaucoup de binationaux qui ont
aussi
des parcours assez similaires aux siens. Donc, il a les codes. Les Algériens d'Algérie, comme on a tendance à dire, il connaît parfaitement parce que le contexte algérien, il le maîtrise du début à la fin. Le rôle de la presse, avec qui il est assez punchy, il la maîtrise comme il faut. Et puis il y a aussi pas mal de joueurs qui jouent dans le golf. Et voilà, lui, il vit au Qatar. Il a grandi comme entraîneur au Qatar. Donc en fait,
la pierre angulaire de ce schéma-là, quoi.
Mourad, c'est comme ça qu'on peut le dire. Nous l'a dit, Emmanuel, avec Slimani.
Il l'a très bien expliqué. Ouais. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Il est au centre de tout cela, à la fois de son pays d'origine, à la fois des binationaux et à la fois du Qatar aussi, qui joue un rôle prépondérant au sein de la sélection algérienne.
Et présent le Qatar.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs sélectionnés qui évoluent dans ces championnats. Et lui, c'est un des, on va dire, ne serait-ce que, il faisait partie des, en lisant le récit d'Imanol, un des précurseurs, un des bâtisseurs du football qatari. Et moi, j'avais une question justement pour
alors
Belmadi, c'est, à part à travers quelques interviews post-victoire Cannes 2019, ça a l'air d'être un personnage assez opaque, assez fermé, difficile d'accès. Est-ce que tu as pu avoir eu accès à Djamel Belmadi, ou est-ce que c'était pas forcément nécessaire, ou est-ce que...
Pour être honnête, je lui ai fait une demande d'interview, il m'a jamais répondu. Donc ça voulait dire que je pense ni oui ni non. Mais effectivement,
normand dans ce cas pour répondre à Agile.
Je pense que en plus en période pré-CAN, c'est un moment qui était tellement important.
C'est vrai, c'est délicat.
Je l'ai pas vu donner d'interview avant la CAN à quiconque. Donc, mais effectivement, avec la presse, il a un rapport assez distant en général. Il refuse souvent les interviews. Et puis on voit comment il s'y prend avec la presse en Algérie. Il a mis des barrières très claires dès le départ. Et effectivement, et voilà, il donne énormément. C'est ça le paradoxe un peu du personnage, c'est que il donne énormément en conf de presse. Enfin, je pense qu'il a aussi acquis sa notoriété et imposé son autorité et imposé son influence via les confs de presse, où il n'hésite pas à tacler les consultants de la télé algérienne, à tacler les ingérences quand il estime qu'il y en a, à sa sortie sur Delors. Je pense qu'elle a été très appréciée en Algérie. En gros, quand on dit Delors, lui fait passer le message qu'il va mettre la sélection entre parenthèses pendant un an. Belmadi, il dit que c'est pas acceptable et il le dit avec ses mots.
Et c'était une opportunité aussi
avec son franc-parler.
En France aussi d'ailleurs.
Et ouais, je pense qu'en fait tout le monde là, je pense que tout le foot africain a été très fier de cette sortie-là, parce que c'était aussi une façon pour lui de dire que les joueurs qui évoluent en Europe, il faut qu'ils viennent en sélection, pas que pour le meilleur, quoi, aussi pour le pire. Enfin voilà, on se pointe pas juste pour une Coupe du Monde ou pour une CAN, mais les déplacements galères en qualif.
Comme une jeune mariée, pour reprendre ses propos.
Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, son rapport à la presse, c'est quelqu'un qui, dans l'intimité, tous ses potes proches, j'ai fait une trentaine d'interviews pour faire ce récit. Tous ses proches disent que c'est un mec extrêmement marrant, extrêmement intelligent, gentil, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'il est sélectionneur, il a créé un cadre assez ferme avec les joueurs, avec la presse, avec l'environnement, avec tout le monde. C'est sa méthode, quoi.
Emmanuel, ça rappelle un peu des grands champions, tout comme on va dire des Didier Deschamps ou encore des Zidane. On se ferme dans cette bulle, et y compris pour Djamel Belmadi, il a pris, il a endossé ce fameux rôle. Cette cape, quoi, de sélectionneur. Ah,
les deux noms que tu viens de citer, clairement, c'est des références pour lui.
Et je sais bien.
Voilà, il va dire qu'il parle de Zidane en disant qu'il est, il est souvent sous-estimé comme entraîneur.
Il a joué face à lui, en Algérie.
Et Belmadi, c'est un pragmatique sur un peu à la Deschamps. Il y a quelques points communs avec lui. Et il raconte souvent une rencontre qu'il avait vu Deschamps à Londres. Quand, au moment des prix du meilleur entraîneur, puisque Belmadi avait été nommé quatrième meilleur entraîneur par la FIFA en 2019, et là il avait vu Deschamps, et il raconte souvent cette rencontre en disant que lui aussi il avait dit à Deschamps pourquoi cette équipe un peu défensive, Matuidi qui joue en milieu gauche, et que Deschamps lui avait dit les joueurs se sentent à l'aise comme ça, moi je gagne comme ça. Et Belmadi il utilise ça un peu comme un exemple en disant lui aussi c'est un pragmatique par rapport à la Tu citais là le chapeau qui était en fait sur une vidéo tactique qu'on a fait une vidéo de 7 minutes qui analyse le jeu tactiquement de l'Algérie.
Ouais.
Et le jeu de l'Algérie, c'est un jeu caméléon. Il est capable de faire à peu près tout, c'est-à-dire de jouer en possession quand des équipes faibles, de jouer en transition quand il le faut.
Ouais.
C'est une équipe qui est extrêmement agressive, c'est celle qui a fait le plus de fautes à la CAN en 2019.
Ouais.
Mais c'est aussi un choix de faire jouer énormément de joueurs techniques, et donc c'est une équipe qui est une très belle équipe.
Alors Samir, et aussi Juan Trossel, réaction avec Achille.
Alors déjà bravo pour ton travail.
Merci Manuel,
bravo. Et j'ai une question, tu sais que le public algérien se fait une idée du personnage, et à travers tous les témoignages que tu as eu, est-ce qu'il y a un écart entre l'idée que le public algérien se fait du personnage de Belmadi et son réel personnage?
Oui, c'est-à-dire que le personnage qui se crée comme sélectionneur, comme je l'écris dans le récit, on l'a surnommé le ministre du bonheur, vu tout le bonheur qu'il a apporté au peuple algérien, mais c'est un ministre du bonheur au visage extrêmement fermé, et du coup il passe parfois en Algérie pour un type fermé, extrêmement autoritaire, voire un peu arrogant, et tous ses proches me le racontent pas comme ça. Et moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est comment les joueurs en parlent. C'est-à-dire que on peut imaginer que c'est un peu un Vahid. En fait, quand je demande à Slimani quelles sont les différences entre Vahid et Belmadi, et pour lui, elles sont énormes. Belmadi, c'est malgré tout, c'est un cadre de vie extrêmement strict, et t'as pas intérêt à déconner avec ça. Mais c'est le grand frère, comme il l'appelle. C'est quelqu'un qui est très très proche humainement des joueurs, à qui les joueurs peuvent tout raconter, à qui eux ont l'impression que Belmadi est un mec qui dit toujours la vérité, qui est toujours qui porte pas de masque. Et moi j'étais impressionné de quand je discutais avec Ben Sebaini ou avec Slimani, de voir l'amour qu'ils ont pour Belmadi. Et souvent on peut se dire bon bah évidemment tu parles toujours en bien de ton entraîneur parce que t'as envie d'être sélectionné et tout ça, mais là j'ai senti qu'il y avait un truc sincère. Et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que au moment où Belmadi est nommé, en fait, il est pas favori, puisque le président de la Fédé à l'époque laisse entendre que ce sera un mondialiste. On parle beaucoup de Carlos Queiroz, on parle de
c'était un plan B.
Mais c'était un plan B qui était défendu par pas mal de joueurs, et notamment certains cadres de l'équipe comme Mahrez, comme Slimani, qui avait entendu
Fégouli
beaucoup
aussi.
Fégouli vachement, qui avait entendu beaucoup de bien de lui et qui ont milité pour qu'il y aille, quoi.
Il est clair qu'il a réussi à reconstruire une équipe, mais ce qui m'intéresse moi à l'instant, c'est de savoir et quelles sont ses relations avec les dirigeants. On sait que par le passé, les dirigeants de l'Algérie n'ont pas été une solution, mais plutôt un problème. Alors, comment a-t-il amadoué les dirigeants algériens, justement, pour qu'ils puissent travailler dans une certaine sérénité ou tranquillité?
En fait, il y a une histoire assez marrante sur le moment.
Alors, Emmanuel.
Où Belmadi est choisi. C'est-à-dire que, comme on le disait, au départ, c'est le plan B. Donc il rencontre Zetchi, donc qui était le président de l'époque, dans un hôtel à Paris. La réunion, elle dure pendant 7 heures. Zetchi, au départ, est pas forcément convaincu. Et en fait, Belmadi, il le séduit en 7 heures. Il le séduit par son pouvoir de conviction, par sa personnalité. Parce que les mecs disent en général que quand tu parles de foot avec Belmadi, t'es convaincu. Parce que Belmadi est un fou de foot. C'est un mec, Wadou me raconte dans l'article, quand il jouait à Valenciennes avec lui. C'est un mec qui connaissait le latéral droit du championnat portugais. Qui joue. Enfin, c'est vraiment un malade de foot. Et en plus, avec Zetchi, c'est un mec qui avait Belmadi est arrivé avec un projet extrêmement précis. Et notamment, pendant cette réunion-là, où l'officialisation elle a lieu après la réunion, tu vois sur la tête des deux, sur la photo officielle, que la réunion elle a duré 7 heures, qu'il est tard, qu'ils sont un peu crevés. Ah oui. Mais pendant cette réunion, par exemple, Belmadi, il pose la question sur Belaïli. On en reparlera sans doute, qui est devenu un joueur majeur.
Ouais, clé aussi.
Mais qui, à l'époque, est complètement tricard. Et Belmadi demande à Zetchi, est-ce que Belaïli, il est blacklisté par la Fédé? Parce qu'il a été suspendu, contrôlé positif à la cocaïne, et suspendu pour ça. Est-ce qu'il est blacklisté parce que ce serait un mauvais exemple pour la jeunesse? Zetchi lui dit non, pas du tout. Et donc Belmadi lui dit bon, moi je crois en Belaïli et je vais le réhabiliter et on va construire quelque chose de grand avec lui.
Bien sûr, Yachid,
parce que j'allais y venir justement. Ouais. Il y a un gros point commun avec Didier Deschamps.
Alors,
c'est-à-dire que il a en fait ce côté-là au niveau de la direction de la fédération, mais en fait ils ont les clés du camion.
Ouais.
Et il travaille sereinement. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré le départ, enfin l'éviction de Zetchi, il détient toujours les clés du camion. Ce qui veut dire que il a réussi à fédérer à la fois les joueurs, parce qu'il faut pas oublier que par le passé, quand il était joueur, il a été capitaine de cette sélection. Donc automatiquement, c'est une autorité naturelle. Et le fait d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale plus le capitana, ça le légitime automatiquement, comme Didier Deschamps peut l'être. Néanmoins, à mon humble avis, va-t-il rester encore, d'après toi, à la tête de l'Algérie, ou alors il pourrait succomber à des sirènes venant d'une autre sélection?
J'en sais rien, mais quel que soit le parcours à la CAN, je le vois. S'il y a une qualif pour la, parce que on en parlera
Coupe
aussi
du monde, ouais.
Les qualifs pour le mondial pour les équipes africaines, c'est compliqué. Il y a que 5 places, donc ça va en marque, ça va être un match de barrage vraiment. Enfin voilà, ça va être une grosse affiche. Mais si l'Algérie se qualifie pour le mondial, c'est évident qu'il reste jusqu'au mondial, parce que pour Belmadi, c'est une apothéose collective. La Coupe du Monde au Qatar, parce que
qui plus est au Qatar,
personnel, parce que comme il le dit lui-même, vivre une Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde comme entraîneur, enfin et même comme joueur, parce qu'il a juste à l'Algérie, il a juste joué une CAN en 2004, mais il a jamais joué d'autres compétitions internationales. Vivre une Coupe du Monde dans le pays où il est né comme entraîneur, pour lui, c'est une symbolique énorme. Et en plus, le Qatar, c'est l'endroit où les Algériens s'entraînent souvent. Tout est fait pour que il se passe quelque chose pour l'Algérie à ce moment-là. Encore faut-il se qualifier.
Mourad. Pourquoi?
Je vais être un peu chauvin. Je vais être un peu au détriment d'être algérien. Je vais être belmadiste.
Ouais.
Moi, j'aimerais qu'il boucle la boucle avec une qualification en Coupe du Monde au Qatar. Ensuite, j'aimerais voir évoluer Belmadi dans un des top 5 championnats européens.
À l'OM, Paris Saint-Germain, non?
À l'OM, ça serait
franchement
parfait.
Quand je parle de Belmadi, ça titille tout le monde qu'un jour il s'assoit sur le banc de l'OM.
Il a été aimé à Marseille.
Il a été
vraiment très respecté.
C'était une relation vraiment passionnelle pendant
Belmadi à l'époque avec Bakayoko. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Mais vraiment, ils étaient chouchoutés.
Ils étaient du club.
Exactement.
À l'époque,
mais vous avez tous rêvé.
Il a joué
en Espagne aussi, donc pourquoi pas. Mais j'aimerais bien aussi, il faut savoir qu'il parle très bien anglais, il a évolué à Manchester City, et moi je le verrais bien, de par l'ouverture d'esprit, notamment de la Première Ligue.
Tu veux le voir à Arsenal, toi.
Je le verrais bien aussi, dans un club.
Les Gunners, les Canonniers,
du top 10 anglais, moi je le verrais très bien exercé.
Arsenal, il a raison.
Je veux voir à la place d'Arteta, c'est ça.
Si on écoute une interview qu'on avait accordée à nos confrères de beIN Sport, et que Belmadi n'est pas très langue de bois,
il a
confirmé qu'il reviendrait, enfin qu'il reviendrait, il viendrait pas sur le banc de d'un club de Ligue 1, quoi. Donc je le vois pas faire de la langue de bois.
L'Angleterre ou l'Espagne.
Effectivement. Ouais. Je te rejoins.
Moi, je le vois plus sur l'Angleterre.
Ça collerait bien. Mais vu qu'il n'est pas langue de bois, je pense pas qu'il aurait dit quelque chose pour noyer le poisson.
C'est bien à savoir parce que c'est vrai que par exemple, depuis son passage comme entraîneur, il est resté vivre au Qatar. Il est quand même très attaché à une vie paisible d'un point de vue privé. Est-ce qu'il est fait pour la vie en club? Est-ce qu'il a envie de ça? Ça, franchement, j'en sais rien.
Ce serait la surmédiatisation du côté de lui. Il serait super exposé. Est-ce que lui, c'est ce qu'il recherche?
Benali, c'est quelqu'un qui a besoin d'un projet lisible de haut en bas, c'est-à-dire d'avoir un président, comme tu le dis, comme disait Achille, qui lui file les clés du camion, un directeur sportif qui marche avec lui. Belmadi, il aura du mal à des projets un peu bancal, quoi.
Rapidement, avant la pause, la dernière.
Si vous êtes désordre de Longoria, sachant que Belmadi fait le travail de Longoria, Longoria qui est un ancien recruteur beaucoup mieux que lui, c'est un acharné des vidéo-analystes. Donc je pense que la hiérarchie, elle aura du mal à être respectée.
Ça fera pas plaisir à prendre aussi. Vous restez avec nous, tout comme Imanol Korkostegui. Oui, ça nous fait penser aussi, on a des réactions de Mourad, d'Abdel ou encore de Yvan qui nous disent c'est les stars du Mondial 90 avec la Roumanie. Voilà, je ne sais pas si c'est d'origine roumaine ou quoi, le nom de famille, mais en tout cas ça leur fait penser à ça, le nom de famille.
Auditeurs, désolé, c'est basque.
Ouais, voilà.
Donc
voilà,
rien à voir. C'est pas roumain du tout. Ouais.
C'est aussi bien le nom que le prénom.
Fallait demander à Juan José directement.
Moi je lis les dédicaces des auditeurs. J'attends pas Juan José.
Mondial 90.
Ça fait rien. Mondial en Italie, remporté par la Mannschaft. Vous restez avec nous, on revient rapidement avec l'équipe de Time Foot et aussi notre invité qui est Imanol. À de suite.
Time Foot revient dans un instant.
Revient dans un instant. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, de Time Foot, spéciale Coupe d'Afrique des Nations. On a des petites dédicaces à faire pour Nasser, pour Somaya qui nous écoute ce soir, des bises pour eux et toute la famille. Ça au moins c'est balancé. Vous restez avec nous jusqu'à 21h avant de retrouver Vanessa à 22h avec Mourad, avec Achille, Samir et sans oublier Juan Trossé et notre invité Imanol qui nous a parlé, de ce monsieur qui est Djamel Belmadi, de cette sélection des Fennecs qui jouera dès demain. Et oui, pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On va s'attarder sur deux autres nations, les Sénégalais et les Marocains.
Time Sport, la troisième mi-temps.
On est bon, c'est ça, Juan Trossé. Et oui, entrée en lice aussi des Lions de la Teranga.
Et oui, mais ça a été aussi compliqué que pour le Cameroun, même un peu plus, puisque de toute façon, courte victoire 1-0 et c'était à la 94e minute. Donc encore une nation.
Dans le Money Time.
Encore une nation qui a une histoire dans le football mondial et qu'aujourd'hui, effectivement, se retrouve en très mauvaise posture. Mais comme disait Mourad tout à l'heure quand on parlait...
Ah, Mourad, il est amoureux de la NBA aussi, je ne sais pas.
L'important...
C'est j'ai capté, Mourad.
Tout le monde est sur son téléphone.
Il est trop vif, Mourad.
Comptable, et les trois points sont revenus du côté du Sénégal.
Mais
si on attendait le Cameroun, on était plus ou moins déçus. Par contre, personnellement, j'étais assez déçu de la prestation sénégalaise. Donc, dès la chance pour eux aujourd'hui, est-ce que ça va durer lors de la deuxième journée? Ça reste à voir.
Samir, il regarde assez bizarrement. Oui. Mourad, c'est le Ben Baker de Time Sport. J'en perds mon latin. Voilà.
Pourquoi pas Olivier Attal? Ben Baker, c'est un second rôle.
Non. Scottie Pippen, c'était pas un second rôle.
Je présente, c'est toi, Olivier Attal.
Non, moi, je suis Ben Baker. J'aime bien. Moi, je portais le 8 de Ben Baker.
Vous voulez un café?
Ça va.
Ça vous dérange, non?
Oui, DBZ, Ben Baker. Voilà, c'est ça.
Dans les tribunes avec la boule qui agite le drapeau de la New Team.
Arrête un peu. Achille, il était là aussi. Il était présent. Samir, on l'écoute. Alors, les Sénégalais.
À l'instar des premiers matchs, je me dis que peut-être les joueurs sénégalais sont des joueurs qui pour la plupart, jouent en Europe, qui n'ont pas l'habitude de jouer peut-être au Cameroun à 14h sur des pelouses qui ne ressemblent pas à la pelouse d'Anfield.
C'est compliqué, oui.
Donc je me dis que pour un premier match, d'ailleurs Sadio Mané l'a dit en interview d'après-match, que voilà, il faisait très chaud, c'était pas facile de se réadapter. Il ne faut pas oublier le groupe n'a pas eu le temps de bien préparer cette
journée.
Ils se sont rejoints tous un petit peu à des jours vraiment d'intervalle, donc c'est pas simple. Et limite, ce premier match, est-ce que c'était pas leur match de préparation pour entrer dans cette CAN? Donc je leur en veux pas tellement finalement au Sénégal. Maintenant, là où c'est dangereux pour eux, c'est que c'est clairement
une des deux ou trois équipes favorites de cette compétition. Et forcément, il va être à temps dans toutes les confrontations. Donc attention au Sénégal.
Alors Agile, avant de retourner du côté du Standard.
Il ne faut pas oublier qu'il y a des absents. Cas de Covid. Kalilou Koulibaly et Dormendi, qui n'étaient pas présents aussi tout à l'heure, cet après-midi.
Je crois que Mané ne fera pas les deux prochains matchs aussi là.
Ah.
J'ai cru avoir lu ça là, juste
ah bon
après, il fera pas les
ah,
deux prochains.
Ok,
matchs.
C'est grave. En fait, il y a un point commun avec toutes ces sélections, c'est que il n'y a pas de créateur. Et ce qui fait que tu vas te retrouver à avoir des équipes qui vont faire des blocs bas, qui vont jouer très bas et qui vont systématiquement contrer. Et le Sénégal, le Cameroun a eu un peu plus de chance parce qu'il y a eu un peu plus de joueurs déstabilisateurs.
Ouais.
Mais tu vas voir que le Maroc s'en est sorti aussi, c'était ouais, très très
aussi. Hein.
Mais il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y en a plus. Et en fait,
toutes ces nations sont amenées à disparaître.
Mais toutes ces nations-là, en fait, ça s'est aseptisé. Contrairement aux décennies, aux précédentes décennies, où tu avais des Augustino Cocha, tu avais des joueurs qui étaient capables de justement créer cette petite passe, trouver ce décalage et trouver ces brèches de défense regroupée et autres. Et aujourd'hui, tu les retrouves plus.
Ouais.
Ce qui risque de poser un vrai problème, je pense, à ces nations-là, qui vont être confrontées à des équipes qui vont jouer très bas, être extrêmement agressifs, et derrière, bon, bah, manque de peau, manger un contre, et on n'est pas à l'abri de.
Moi, je suis avec Mourad.
Moi, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant d'aller tuer. Concernant le Sénégal, c'était un match qui s'est déroulé à 14h.
Ouais.
Je pense qu'il faut arrêter avec ces matchs à 14h. C'est une vraie purge pour tout le monde. C'est inhumain. À Yaoundé, j'ai regardé tout à l'heure parce que je travaille. Il faisait plus de 30 degrés à 14h à Yaoundé.
Non, il faisait 29 degrés précisément.
Ouais.
Excuse-moi, après, là, si tu fais le. Enfin, il fait pas la même température à Nanterre.
Oui, que, 29, 30. Allez, c'est pas.
Aux alentours du stade Bipassoum, si je me trompe pas.
Oui.
Donc voilà, il faisait environ 30 degrés à Yaoundé à 14h. Donc voilà, c'est une purge. Donc difficile de tirer des enseignements sur ce type de match. Par contre, moi, ce que j'analyse, c'est que j'ai vu un Sénégal. Très faible dans les transmissions, très faible dans la possession de balles, avec effectif, enfin un 11 clairsemé, avec beaucoup d'espace entre les joueurs. Un Mané peut-être qui était le seul joueur qui est sorti du lot. Certains l'ont critiqué, moi je pense qu'il était plus ou moins décisif, même s'il a marqué un penalty, mais c'était un des seuls à se procurer d'autres occasions. Et en termes de profondeur de banc et en termes d'effectif, certes, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans des grands clubs, mais ce sont souvent des seconds couteaux dans ces grands clubs. Je pense à Bounassar et notamment au milieu et Gay aussi, Gana Gay qui est aussi un second couteau au milieu de terrain au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc le Sénégal éternel favori face à un éternel petit poussé, le Zimbabwe. Donc voilà, donc
n'oublions
même si j'ai pas, je tire pas d'enseignement assez hâtif concernant le Sénégal, mais je les vois pas aller si loin que ça.
Allez, le dernier sujet.
Je sais pas si Emmanuel a un avis pour le Sénégal.
Ouais, on va voir Emmanuel. Allez Emmanuel, avant de partir sur les Lions de l'Atlas.
Non, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Achille sur les meneurs de jeu. C'est intéressant.
Il fait réagir.
On a plus de meneurs de jeu à l'ancienne qui sont des vrais numéros 10. Mais c'est vrai que le jeu de l'Algérie, s'il y a un meneur de jeu qui s'en rapproche, c'est des mecs comme Benacer ou Feghouli. C'est-à-dire, en fait, c'est des joueurs qui sont aussi des récupérateurs.
Il y a des Brahimi, Belaïli. On en a, nous, des meneurs de jeu.
Hormis l'Algérie. Non, mais blague à part, hormis l'Algérie. Je vois pas quelle autre nation a des joueurs capables en Afrique
de faire.
Tu peux
comparer ça au football mondial avec la perte du vrai numéro 10.
C'est
avant
ça
ce joueur-là, le rôle c'était
là
le
aussi.
Numéro 10 qu'il avait.
Retrouvé pour un en mettre.
Aujourd'hui, c'est un football de contre-attaquant. Voilà.
Ouais.
Parlons des noms de l'Atlas justement.
Ah ben justement, les Marocains, on y va.
Une grosse affiche de cette journée.
Time Sport, le mode pressing.
Moi, je comprends jamais rien. On parle de Benzema, il a la ramasse. On parle du Maroc, il a la ramasse aussi. Les deux favoris, justement, désignés, se reconnaîtra du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. On l'entend peut-être proposer un jeu assez insipide, hein, si je peux me permettre, Samir. Eh oui, un but à zéro pour le Maroc. Eh oui, Sofiane.
Pour avoir vu la rencontre, enfin les 90 minutes de la rencontre, c'était
aussi tout comme le Sénégal, on a l'impression.
En fait, ça a été une rencontre qui ça se regardait. C'est surtout on veut pas perdre. Après, il y a eu en deuxième mi-temps l'arrêt de Bounou, le gardien marocain et sévillan, qui à mon humble avis et sera déterminant pour la suite de la compétition. Parce qu'à ce moment-là, le Ghana, s'il ouvre le score, derrière, je pense qu'ils sont en totale confiance, ils font un bloc bas, ouais, pressing, et le Maroc s'approche pas des 20 derniers mètres.
Ah ouais.
Manque de peau, ils marquent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils craquent sur une relance, peut-être de la star à l'heure actuelle du Ghana, qui est Partey.
Sur une mauvaise passe
de Partey.
Arsenal, Partey a un champ, c'est nos Partey, nos parties. Donc là, du coup, ben, avec Partey, parti côté marocain, avec cette perte de balle dans la surface et l'ouverture de score de Sofiane Boufal.
Non mais
c'est vrai. Thomas Partey, ben c'est ça, sur la chronique et sur l'analyse de 10 minutes d'Achille, j'aimerais bien rebondir
et mettre la lumière
simplement sur la défense centrale marocaine.
Tu n'as pas le droit.
Le duo Saïs Aguerd, pour moi, c'est niveau top 3, ouais. Ligue 1, même niveau top 3 Première Ligue, je les ai trouvés incroyables. Aujourd'hui, ne serait-ce que
il n'y avait pas forcément de grands
matchs. Il y avait les frères Ayou, il y avait Souleymane, il ne court plus. Mais c'est toi qui le dis. Est-ce que tu as regardé le match? C'est des sacrés clients, mon coco. André Ayou, c'est plus de 100 sélections. Il fait les beaux jours de Rennes.
Plus que ça, on voit qu'il n'est pas forcément titulaire à Crystal Palace.
Moi, j'ai trouvé cette sélection ghanéenne tranchante. J'ai trouvé la charnière centrale très rassurante. Et j'ai trouvé justement le Maroc de cette Coupe d'Afrique 2022, contrairement aux précédentes, c'est un collectif, contrairement à avant, où c'était une somme d'individualités disloquées. Et là, aujourd'hui, Vahid, à l'image du but et l'accolade entre Boufal et Vahid Al-Houdi,
très belle image.
Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette équipe marocaine qui joue en bloc, où il n'y a pas de star. On a l'impression qu'il n'y a pas un joueur qui est au-dessus de l'autre. Pour moi, les hommes du match
On va essayer de parler des hommes de demain à 14h.
Et à Guerre.
Ouais, rapidement. Juan José, rapide.
C'était un gros match.
Pour les pronoms avec l'Algérie.
On aurait pu attendre un peu plus du côté du Maroc.
Oui, les Marocains.
Parce que c'est une sélection qui a des joueurs quand même extrêmement importants et qui aurait pu faire un peu plus. Donc, le Ghana n'est pas la sélection la plus facile non plus pour commencer un premier match. C'est pour ça que je disais au début, sur les matchs qu'on a vus de la CAN, les grosses sélections qu'on pourrait attendre, de façon générale, nous ont déçus par rapport à leurs possibilités.
C'est le premier match, c'est le match de la peur, c'est tout à fait normal.
J'aurais aimé voir un Maroc beaucoup plus entreprenant qu'il ne l'a été aujourd'hui. Encore une fois, le résultat, c'est ce qui compte. Ils ont les 3 points, ils continuent de l'avant. On verra lors du prochain match s'ils sont capables de confirmer, en attendant effectivement que le Sénégal ou le Cameroun fassent de même.
Allez, rapide, Samir.
Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de voir jouer le Maroc, dans un premier temps, les supporters marocains faisaient que de critiquer Vahid parce qu'ils n'étaient pas contents du fond de jeu de l'équipe. Et petit à petit, aujourd'hui, Vahid, le plan de jeu, il est clair. Il s'appuie sur une assise défensive. Et en fait, moi, je m'attends à voir un Maroc qui va gagner tous les matchs, si ce n'est contre vraiment un adversaire qui a un écart incroyable. Mais je m'attends à voir le Maroc gagner tous les matchs avec un but d'écart. Et c'est ce qu'il réalise depuis maintenant peut-être une petite année de mémoire. Donc, j'étais pas choqué par la prestation du Maroc. Mehdi Benatia était en plateau.
On reste confiant
dans le match. Ouais, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait, le jeu du Maroc, c'est totalement s'appuyer sur une défense qui est très forte et essayer de jouer les derniers coups sur coup de pied arrêté ou sur des individualités avec Sofiane Boufal.
Ouais. Est-ce que ce serait pas le bon choix justement de Vahid Al-Lozic de miser justement sur ce collectif bloc bas à l'image de, il y a eu un repli défensif, je sais pas, en fin de match, juste avant l'ouverture du score marocaine, où ils sont tous revenus dans leurs 25 mètres. Je trouvais ça incroyable. Donc, est-ce que c'est pas le bon choix justement de Vahid de mettre les stars de côté et de miser sur un groupe? On a vu, il y a une solidarité, c'est compact, c'est un 4-1-4-1.
C'est choix.
Ouais. 1-0 peut-être. Oui. Je sais pas s'ils iront au bout, mais en tout cas, moi, je les vois bien dernier carré le Maroc.
Je pense qu'ils vont craquer. Ils vont craquer parce qu'ils sont pas. À mon humble avis, ils ont pas ce. En fait, ils ont pas ce joueur qui est le facteur X qui va te permettre d'aller plus loin.
Ouais. On a oublié de prendre Mourad. Mourad qui était au standard. Et on s'en excuse. Voilà, on le dit à l'antenne. Ça a beaucoup parlé. On peut essayer de le prendre. Allez, on va essayer de prendre Mourad. En plus, demain, 14h, l'Algérie qui rencontrera la Sierra Leone. Et oui, dans ce groupe E, première journée pour ce groupe E. Bonsoir Mourad. Il a composé le 01-53-48-3000.
Bonsoir la team. Comment allez-vous?
Ça va très très bien Mourad. On a juste 2 minutes Mourad. Allez-y, faites-vous plaisir. On est avec Imanol encore, hein. Le réalisateur de One to Five Belmadi.
Juste, je voulais dire par rapport à Belmadi.
Alors.
Parce que j'ai entendu ici et là que, ouais, ça serait bien qu'il coache un grand club et tout.
Ouais.
Moi, je pense que une fois la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en espérant que les Fennecs y soient, mais je pense que ça devrait le faire. J'espère vraiment, soit il continue avec la sélection, soit il intègre la fédération. Parce que il a quand même construit quelque chose de fort avec cette sélection. Et si c'est pour partir ailleurs et laisser après un chantier, suis pas d'accord. Moi, je préfère continuer de construire pour l'avenir, pour les futures générations de
footballeurs. J'ai envie d'être égoïste pour Ben Maldi. J'ai envie de le voir réussir ailleurs.
Ouais. En fait. Ouais, lui, c'est bon. Il a décidément, il veut lui faire signer ce contrat en première ligue. Hein. Ouais, il y en a qui veulent le garder.
Confiture au cochon.
En avril. Mais non, non, du tout,
Mourad. Il a 45 ans, Ben Maldi. Il a le temps.
Ouais. Quelque chose de très intéressant.
Il peut faire un livret blanc, le soumettre à la FAF. Ouais. Et ensuite entreprendre.
Merci, Mourad. On va écouter Mourad. On a deux Mourad.
Franchement, si dois-je entraîner un club, ça peut être n'importe où, mais ça peut être qu'à Marseille.
Ah ben voilà, Emmanuel est d'accord.
Mais non, mais non, mais non.
Oublie.
Emmanuel, un grand merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci beaucoup à vous pour votre accueil, merci beaucoup.
Et où on peut se procurer ce fameux 1-2-3 Viva Ben Maldi
sur l'équipe.fr, justement. Vous allez trouver ça dans la rubrique Explore.
On le veut, on veut regarder.
Vous pouvez vous abonner et découvrir tout ça.
Un grand merci pour cette disponibilité. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la communication de chez nos confrères de l'équipe. Oui, Mourad, on n'a plus le temps.
Quelles sont nos affiches? Le FC Metz, l'Algérie. Ouais.
L'Algérie, demain 14h. On verra après en fin de journée avec Adil Farkan. Demain, l'Algérie face à la Sierra Leone à 14h. De toute façon, toutes les infos seront données sur les réseaux sociaux, notamment sur le site internet beurrefm.net. À demain.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.